au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Présence de trois invités pour se remémorer ensemble des souvenirs liés à deux grands événements de l'histoire du sport automobile canadien, la victoire de Gilles en 78 et bien sûr celle de Jacques à Érez en 1997. Trois invités donc pour ce faire, Joanne Villeneuve, Jacques Villeneuve et Philippe Lagu. Madame Villeneuve, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Comment allez-vous?
Très très bien.
La semaine va à votre goût?
Absolument.
Toutes les nouvelles sont tombées en place?
Tout tombe à bonne place au bon moment.
Êtes-vous magicienne, Joanne? On dirait que votre vision s'est concrétisée. Avez-vous tordu des bras? Avez-vous joué du coude un petit peu?
Avec beaucoup d'aide de pas mal de monde, dont Jacques, oui. Dont ma fille Mélanie, dont l'équipe qui m'entoure, c'est François Dumontier. Donc, tout le monde ensemble, on a réussi à faire quelque chose de super beau.
Et on a très, très hâte de vivre ce moment magique-là, très certainement dimanche. Et permettez-moi d'accueillir et de présenter également notre autre référence Formule 1 ici à l'antenne, au 98.5, bien connu, bien sûr, pour ses opinions dans le monde de l'automobile depuis, je ne veux pas le vieillir, mais quelques décennies minimum.
27 ans.
Philippe Lagu, qui est avec nous. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Et en conversation de corridor avec Jacques, tu évoquais ta date de naissance, 1964, date de la création du circuit de Tremblant.
Et de la création de la Mustang. L'introduction de la Mustang. Alors, sur le marché.
C'était ta destinée.
C'était écrit sur le mur, effectivement.
Nous sommes ensemble pour se remémorer, pour parler de sport automobile, la passion qui anime les Canadiens. Et c'est un grand prix, Jacques, Joanne et Philippe, qui vraiment est à l'enseigne Villeneuve cette année pour toutes sortes de raisons. Parce que le nom Villeneuve signifie correspond évidemment avec les plus grands moments de l'histoire de notre sport automobile ici au Canada. Il y a eu, bien sûr, on pourrait pointer vers quelques dates. On aime bien penser que la victoire de Gilles en 78 est la victoire qui a ouvert les portes pour le sport, pour lui-même, qui l'a propulsé à un autre niveau. Et on ne peut pas oublier la victoire dans un mois d'octobre également, 19 ans plus tard, en 1997, de Jacques au Grand Prix d'Europe à Érez, où il devenait champion du monde. Deux des grands moments du sport automobile. Qu'est-ce que c'est, Jacques, pour toi de cohabiter avec celui que tu as qualifié de ton héros, ton père Gilles, mais vraiment de cohabiter ensemble, même s'il n'est plus physiquement là, dans la mémoire collective?
Ben, non, il n'y avait pas une cohabitation. Parce que Gilles, déjà, c'était pas quelqu'un qui regardait derrière ou par le passé, et c'est l'éducation qu'on a eue aussi. Le passé permet de se construire, de faire qui on est aujourd'hui, d'avoir de bons souvenirs, mais c'est toujours demain qui compte. Et ça a été une partie intégrante de notre éducation.
1978, pour toi, il y a des photos pour nous rappeler. On voit M. Villeneuve, le grand-père, Mme Villeneuve, on voit Joanne, on te voit gamin. Je pense pas que Mélanie était-elle sur la photo, Mélanie?
Non, Mélanie avait 4 ans à l'époque, donc c'était beaucoup trop petite pour venir s'asseoir pendant toutes ces heures, regarder les voitures tourner. Jacques était passionné par la course automobile.
Je pouvais les regarder 10 heures, les autos tourner, donc c'était pas un problème.
Jacques, 1978, t'as quel âge à ce moment-là?
7 ans. 7 ans, oui, bravo, 7 ans. T'es à l'école, hein?
t'es sur le circuit, évidemment, pour la course.
Oui, mais je m'en souviens pas, je me souviens de la photo.
Oui, oui.
Et c'est la photo qui me donne des souvenirs. Donc, quelque part, je dis, j'étais là, c'était génial, mais quand j'y pense, non, je me souviens pas d'avoir été là. Je me souviens juste de voir la photo et quand je me regarde sur la photo, je vois que c'était un moment qui était quand même très, très important.
Vraiment, hein? Est-ce que tu as des objets, des photos, justement, chez toi, à ta demeure, qui te rappellent des moments de course? Peut-être pas celle-là, mais d'autres, non? Pas vraiment?
Non, on n'est pas une famille de souvenirs à ce niveau-là.
Non,
on n'a pas de photos en grandissant, pas de trophées.
Un drapeau à damier.
Oui, mais... Oui, mais il était enroulé dans son carton, donc c'était même pas... Non, on gardait pas... On n'était pas... Jacques a raison, on n'était pas très souvenirs. Moi, je pense même pas de prendre des photos quand je suis... Même aujourd'hui, avec nos téléphones, on peut le faire facilement. C'est pas quelque chose auquel je pense.
Philippe Lagu, t'étais sur place en 78. Je sais pas si t'assistais à ta première course à vie.
Oui, oui, absolument.
Et ça a déclenché beaucoup de choses dans ta vie, Philippe. Dirais-tu que c'est là que ça s'est passé?
T'as nommé deux dates tantôt. T'as nommé 1978, la première victoire de Gilles, puis t'as nommé le championnat de Jacques en 1997. On tournera pas autour du pot, là. C'est les deux dates les plus importantes de l'histoire du sport automobile au Canada, point barre. Il y a pas grand-chose qui accote ça. Puis en troisième place, je dirais probablement la victoire de Jacques aux 500 000 d'Indianapolis. Tu sais, je veux dire, il y a un Canadien qui a gagné les 500 000 d'Indianapolis et il y a un Canadien qui a été champion du monde, il est à côté de moi.
Oui.
Et il y a un Canadien qui a gagné le Grand Prix du Canada, c'est Gilles.
On s'est rappelé énormément de souvenirs ces dernières semaines grâce à la collaboration d'anciens pilotes, d'anciens adversaires de Gilles. Si je reviens à Joanne, on a eu l'occasion d'en discuter pas plus tard que la semaine dernière, puis on va y revenir, bien sûr, votre rôle, votre présence lors du Grand Prix. Jacques, tu dis, bon, ben j'ai pas de souvenirs, c'est la photo qui me permet de gratter là-dedans. Reste que, sans, là, je parle pas des souvenirs qu'on se construit avec les années à partir des photos, mais te souviens-tu de vraiment de ton enfance, comment tu voyais la F1 ou de moments de course?
C'était pas celle de Montréal. Pas celle de Montréal.
Ouais.
Mais j'ai d'autres flashs. Mais c'était souvent lié à des voyages pour se rendre au circuit dans les motorhomes. Et puis à l'époque, en Europe, chaque pays avait sa monnaie. Donc je me souviens, on prenait une nouvelle monnaie qui était pleine de couleurs et je trouvais ça génial. Donc c'est des petits flashs comme ça qui sont peut-être pas reliés nécessairement à la course elle-même.
Je comprends. Mais te souviens-tu par ailleurs du moment où tu as eu envie, où en fait ça a toujours été dans ton ADN que de penser que tu voulais conduire ces voitures-là?
J'ai jamais eu de question. Mon premier souvenir est un jour je vais faire de la course mobile, c'est tout. La question ne s'est jamais posée. Il n'y a jamais eu de doute pour qui que ça soit. J'ai grandi en jouant avec des voitures, en faisant des pistes dans le tapis. Rien d'autre n'existait.
Ouais. Ça va plus loin, parce que quand moi je lui posais la question, il devait avoir 6, 7, 8 ans. Puis je disais, oui, mais si tu ne deviens pas pilote, qu'est-ce que tu vas faire? Puis il me regardait en me disant, mais attends, il n'y a rien d'autre à faire? Qu'est-ce que je peux faire en dehors d'être pilote? Puis j'ai essayé d'expliquer que dans le monde, il y a 20 personnes, il y en a 20 pilotes. Il n'y en a pas... puis je dis, toutes les autres personnes, ils font quoi, tu penses? Ah! Ben, j'en sais rien.
Puis en même temps, ben peut-être que cette vision des choses, puis peut-être que ceux qui atteignent les sommets voient les choses de cette façon-là. Jacques, en as-tu discuté avec d'autres champions de F1 ou d'autres champions qui provenaient de d'autres sports, peut-être, des discussions comme ça?
J'en ai parlé avec d'autres pilotes, et c'est pas tout le monde qui a la même attitude. En parlant avec certains pilotes, leur réponse était, ben écoute, j'avais fait un peu de kart, on voyait que j'étais vite, puis je me dis, je pourrais faire un peu d'argent dans ce métier-là, donc pourquoi pas? Donc c'est pas tout le monde qui a la même passion, il y en a d'autres qui sont très passionnés aussi. Mais si tu veux vraiment réussir, il faut pas avoir de plan B.
Et quelle analyse fais-tu rationnelle, tout en considérant aussi que tu es le fils de Gilles, évidemment, mais de la place qu'occupe, de ce que ça a permis, de ce que ça a ouvert, cette victoire-là de Gilles sur Ferrari en 1978, Jacques?
Il n'y a rien de rationnel, c'est de la pure passion. Quand Enzo Ferrari a pris Gilles, c'était aussi parce qu'il voyait sa passion pour ce sport automobile. Il se donnait à fond et il y avait pas de réflexion sur ce que ça pouvait lui apporter dans la vie ou en business ou ainsi de suite. C'était la pure passion du pilotage. Donc, je pense que c'est ça que Enzo Ferrari a apprécié. C'est ça que les fans ressentaient aussi. Et ce qui a permis de créer tout cet engouement qu'il y a eu au fil des années. Et la différence peut-être avec la course automobile au Canada et d'autres pays, c'est que cette victoire a permis de mettre le Canada sur la map internationale.
Clairement. As-tu revisionné certaines des courses de ton père?
Non, pas des courses entières. Souvent, maintenant sur Internet, on trouve facilement des images, mais c'est pour voir soit des beaux dépassements, des beaux combats, ou même des accidents. C'est généralement ce que les pilotes regardent, comme tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on regarde des faits de course? Ça va être soit les gros accidents ou les belles passes d'armes, comme il y a eu avec René Arnoux à Dijon.
Est-ce que y a des séquences en particulier que tu as apprécié regarder ou qui t'ont bouleversé quand tu as regardé des images d'archives de Gilles en piste?
Oui, mais c'est les mêmes que tout le monde. Hein. C'est les clés phares. C'est principalement avec René Arnoux à Dijon, où pendant deux tours, il y avait un gros combat. C'est de rester en tête à Jarama et ou de gagner Monaco avec une voiture qui n'était pas supposée être vite là. Donc, c'est des moments qui ressortent et que je comprends mieux une fois que j'étais pilote, que j'ai réussi à mieux à comprendre l'exploit que ça avait été.
Joanne, vous, est-ce que vous regardez de temps en temps soit des courses de Jacques ou de Gilles, les deux hommes de votre vie qui sont les deux pôles?
Que je regarde
la course automobile au Canada?
Les anciennes courses? Non.
78, par exemple, l'avez-vous déjà revisionné? Moi, je l'ai regardé encore ce matin, juste pour donner une idée. J'ai regardé des séquences. Regarder des images qui me procurent de bons feelings.
Ce qui arrive, c'est que nous, on n'avait pas, comme aujourd'hui, toutes les caméras partout. On pouvait pas vraiment voir la course de la même façon. Moi, je participais à la course en tant que chronométreur. Et donc, à partir de là, on a une vision complètement différente d'une course. On regarde la course avec des chiffres et non pas avec des images.
Mm-hmm.
Donc, c'est différent un petit peu. C'est différent un petit peu, mais bon, d'un autre côté, ben c'est sûr que quand on regarde les images, quand en Autriche, Gilles est parti de la quatrième ligne puis s'est retrouvé premier au premier virage en dépassant tout le monde contre le mur de pit wall. Mais là, on se dit, ouais, OK, là, c'est quand même spécial.
Ouais. Philippe, toi, tu dois faire comme moi. Tu dois te replonger le nez là-dedans de temps en temps dans les archives, non?
Oui, régulièrement. Puis il y a une course, je trouve, qu'on mentionne pas assez souvent quand on parle de Gilles Villeneuve. C'est quand il a gagné aussi aux États-Unis, à Watkins Glen, en 1979. Il pleuvait. Écoute, il était tout seul. Il y avait lui et il y avait les autres.
Et on l'a vu particulièrement lors des essais sous la pluie, je pense, où il avait mis quoi, 11, 12 secondes ouais, sur le temps qui...
Gilles, quand il pleuvait, déjà, il était dans son élément, ouais, là, parce ouais. que c'est un ancien champion de motoneige. Alors, quand ça glisse un
la
petit
glisse,
peu...
Ouais.
Là,
c'est la vision. Hein, dans la motoneige, les pilotes prennent l'habitude de regarder... Ils regardent devant, mais c'est un nuage. Juste de voir avec les coins des yeux des couleurs sur les côtés. Et ils sont capables de s'adapter à ça.
C'est assez phénoménal. Et ça pique ma curiosité. As-tu déjà fait de la course de motoneige, toi, Jacques?
Non, moi, j'étais skieur avant de faire de la ouais. voiture. Mais non, en Europe, la motoneige, c'est pas ce qu'il y a de plus connu.
Non, mais as-tu expérimenté quelque part dans ta vie, même à la retraite? Mais pas à la retraite, t'es pas vraiment à la retraite. T'es toujours prêt à piloter n'importe quel
oui,
bolide.
Non, j'ai fait un Québec-Lac-Saint-Jean en skidou. Donc oui, ça, c'était le fun.
OK,
mais okay. Ça s'est limité à ça.
C'était pas de la course. Philippe, tu voulais quand même compléter. Excuse, est-ce que je t'ai interrompu un peu par rapport au fait que sous la pluie, Gilles était un artiste, là? Hein?
Oui, ben on l'a vu d'abord à Watkins Glen. Moi, je pense que c'est une de ses plus grandes victoires en 1979. 79, ne l'oublions pas, hein, Gilles avait fini deuxième au championnat.
Oui.
Et s'il n'y avait pas abandonné au Grand Prix de Belgique cette année-là, c'est peut-être lui qui aurait été champion. Le championnat, là, il s'est probablement mm-hmm. joué là.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, c'était quand même une grande saison pour lui. C'est vraiment là qu'il a éclos, on pourrait dire ça comme ça. La graine avait été semée la saison d'avant, saison qui avait été difficile, mais bon, qui s'était terminée sur une bonne note avec la première victoire à Montréal. Après ça, 79, et cette superbe victoire à Watkins Glen. Puis quand on dit que sous la pluie, il était dans une classe à part, ben oublions pas Montréal en 1981. Parce que finir troisième...
81, c'est l'aileron qui se détache.
C'est l'aileron qui se... Finir troisième, pas d'aileron en avant, sous la pluie, je suis même pas certain qu'Ayrton Senna aurait été capable de faire ça. Je pense qu'il y a à peu près Gilles et juste Gilles qui pouvaient finir troisième avec cette voiture-là, dans ces conditions-là.
Jacques, peut-être, hein? Peut-être Jacques.
La pluie, c'était pas ton truc, toi.
La pluie, j'aimais quand il y avait beaucoup d'eau. Quand il y avait juste un peu d'eau, ça, j'étais pas génial. Mais quand il y avait énormément d'eau, pareil qu'on ne voyait rien, comme on a eu en NASCAR ici, quand on a roulé à Montréal... c'est quelque chose que j'adorais. Ça, c'est, je pense, c'est le ski qui m'avait aidé aussi. Parce que comme en motoneige, c'est pas grave la position du ski, de la motoneige ou de la voiture. C'est là où on regarde dans la direction à laquelle on va. Et c'est pas tout le monde qui est capable de s'adapter à ça. Mais il y a une différence aussi. C'est une époque où les voitures étaient peut-être moins technologiques. Il y avait de l'appui aérodynamique, mais c'était moins pointu par rapport à l'époque ensuite de Senna, où ici, il y a un tout petit morceau qui partait, la voiture devenait inconduisible. Donc, ça permettait pour des pilotes comme Gilles, qui était un peu des funambules, de s'adapter aux problèmes de la voiture.
Jacques Villeneuve est avec nous. Joanne Villeneuve, Philippe Lagu, vendredi, week-end de Grand Prix. Et Jacques me confiait récemment, je lui demandais, j'étais pas trop sûr de ma question, je lui demandais un petit peu comme un cavalier avec sa monture, est-ce qu'un pilote a une relation avec sa voiture? Ben, j'aimerais parler justement de la voiture avec laquelle Gilles a gagné cette course-là en 1978, que Jacques va piloter. Et plus tard, on va parler, bien sûr, de la voiture, peut-être de la monoplace préférée de Jacques. Est-ce que c'est celle avec laquelle il a remporté le championnat du monde? Eh bien, on aura la réponse tout à l'heure. On revient dans un instant.